VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Le pape François a dénoncé aujourd'hui l'injustice atroce que représentent les grands bidonvilles des mégapoles africaines, le fruit de la corruption et de l'accaparement au profit de quelques-uns, a dit le Saint-Père. François s'exprimait à l'église de Saint-Joseph Travailleur, tenue par les jésuites dans l'immense bidonville pollué de Kangemi à Nairobi, où s'entassent plus de 100 000 personnes. Le souverain pontife était au dernier jour de sa visite au Kenya. Prochaine étape donc, l'Ouganda, deuxième escale de son voyage en Afrique. Une nouvelle vague d'assassinats en Centrafrique, selon Human Rights Watch, y tire la sonnette d'alarme à quelques jours de la visite du pape. L'Organisation des droits humains interpelle la communauté internationale pour que le passage du souverain pontife à Bangui cristallise la paix. Écoutons l'ampleur des dégâts décrits par Lewis Madge. Il est chercheur de la division Afrique de Human Rights Watch à Nairobi.
Toujours, c'est les civils qui souffrent. Et ça compris des gens âgés, des gens dans la situation d'handicapé qui ne peuvent pas fuir. Et il y a aussi des femmes et des enfants qui compris les victimes. C'est toujours les civils qui sont en train d'essayer de prendre fuite pour aller dans un site de déplacement qui sont attrapés par un groupe ou bien par d'autres. D'ailleurs, nous avons compté plus de 1000 maisons qui viennent d'être brûlées depuis le 26 septembre. Et ça, le fait que les maisons continuent d'être brûlées, ça sera très difficile d'établir un nouveau de reconciliation lorsque les maisons sont en train d'être détruites.
Lewis Marge, le chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch. Le Parlement ougandais a adopté une loi controversée sur les ONG à quelques heures de l'arrivée du pape François dans le pays. Les associations de droits humains dénoncent une loi qui entrave le travail des ONG. L'une des quatre personnalités burundaises frappées par les sanctions du président Barack Obama pour leur rôle dans la crise au Burundi réagit, et cela par le biais de l'un de ses avocats, le général Siri Indayi Kourouye, déclare que sa participation au mouvement de mai dernier, à savoir la tentative de coup d'État contre le président Pierre Nkurunziza, est justifiée. On écoute son avocat, Maître Bernardin Menguin.
L'acte qu'il a posé, c'est un acte qui est le résultat d'un choix de valeur. Et il a appliqué ce que nous appelons, nous juristes, la théorie de l'état de nécessité. C'est-à-dire qu'il a dû faire le choix entre deux valeurs en optant pour la valeur qui lui paraissait la valeur supérieure, le traité d'Arusha, la Constitution. Eh bien, il voudrait soumettre à un tribunal libre et indépendant l'exposé de cette question.
En attendant, il croupit dans une prison. Soyons réalistes, vous croyez qu'il aura un procès équitable ?
Un avocat doit lutter jusqu'au bout pour que ce procès équitable survienne.
Maître Bernard Menguin, avocat du général Cyril Ndarikouye, l'un des auteurs du putsch manqué demain dernier au Burundi, joint par Chérubin Dorsil. Au Gabon, plusieurs hauts fonctionnaires ont été entendus ou placés en garde à vue cette semaine dans une affaire de trafic de bois précieux. Parmi eux, l'ancien ministre des Eaux et Forêts Nelson Mason, devenu conseiller politique du président Ali Bongo Ondimba depuis le remaniement ministériel de septembre. Il a été entendu par les enquêteurs dans son bureau de la présidence de la République. Le tribunal spécial récemment créé pour traiter des affaires de criminalité financière et phonique a ouvert cette semaine une enquête préliminaire liée à l'exploitation illégale de Kevazingo, une essence de bois rare qui se vend cher en Asie, a affirmé cette source sous couvert d'anonymat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La France a rendu ce vendredi un hommage solennel émouvant aux 130 morts et aux 350 blessés des attentats de Paris du 13 novembre, revendiqués par le groupe État islamique. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État français, François Hollande. Quelques 2600 personnes, dont de nombreuses familles de victimes et des blessés, ont participé à cette cérémonie nationale dans la cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, célèbre monument au Dôme Doré au cœur de Paris. Arrestation dans la banlieue de Bamako de deux complices de l'attentat du Radisson Blu. Ils ont été remis à la justice afin de faciliter le reste de l'enquête. Plus de précisions, Kassim Traoré.
Depuis l'attentat de l'hôtel Radisson, les forces de sécurité étaient à pied d'œuvre. Elles menaient des patrouilles de jour comme de nuit partout à Bamako et dans les environs. C'est ainsi que deux présumés complices des auteurs de l'attentat perpétré à l'hôtel Radisson Blu ont été arrêtés par les forces spéciales maliennes ce jeudi. Cela grâce à la coordination des différentes forces de renseignement maliens et grâce à la collaboration avec certaines bonnes volontés. Tout ceci ont permis d'appréhender Seydou Djeptile et Adama Maïga, respectivement à Missabougou et à Sangarebougou, Marseille. Selon des sources sécuritaires, les auditions des deux suspects qui vont commencer doivent permettre d'apporter plus d'éclairage sur les motivations des auteurs de l'attentat terroriste, lequel acte a fait 22 morts. En tout cas, pour ce qui est de l'enquête, les armes de crime ont été remises à un service spécial d'éminissement afin de déterminer leur provenance. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Boko Haram a encore frappé au Niger. 18 villageois ont été tués par des membres du groupe djihadiste à Ogom, dans le sud-est du pays, à la frontière avec le Nigeria. D'après les autorités locales, 13 personnes ont été tuées par balle, 3 autres ont été égorgées et 2 sont mortes, calcinées dans l'incendie de leur maison. 11 personnes ont également été blessées. L'attaque s'est produite mercredi soir. Près de 100 habitations auraient été brûlées. Les assaillants seraient venus du Nigeria voisin. Au Burkina Faso, plus que 72 heures pour l'ouverture des bureaux de vote dans le cadre des scrutins présidentiels et législatifs. L'heure est au dernier réglage pour en faire une réussite. Et ces derniers jours, le balai citoyen est monté au créneau. Ce mouvement qui était à la pointe de la mobilisation qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir a débuté une caravane dénommée « Je vote et je reste » à travers la capitale. Plus de détails avec l'un de nos correspondants dans la capitale burkinabé, Issa Napon.
« Je vote et je reste ». Plus qu'un projet, c'est un leitmotiv qui tient à cœur aux dirigeants de ce mouvement qui a été en pointe de l'insurrection populaire ayant chassé le président Blaise Compaoré du pouvoir et qui tient à une transparence totale du premier scrutin post-Compaoré. C'est dans un marché bondé que nous rencontrons le coordonnateur de la caravane, Rasmane Zinaba.
C'est d'inviter les populations à aller massivement dans les urnes et en cela, nous les invitons à sortir massivement et à aller voter. Voter, revenir à 18h à la fermeture des bureaux de vote pour assister au dépouillement parce que c'est un droit consacré à chaque électeur et à chaque citoyen burkinabé.
Juché sur un bus, mégaphone au vent, les animateurs du balai citoyen haranguent la population pour assurer leur pleine participation au processus électoral devant notamment aboutir à l'élection du futur président du Faso.
Nous sommes des cibles.
Nous sommes des sentinelles.
Qu'est-ce qu'on fait?
On répond à la paix.
Pour le peuple.
Qui va lutter contre l'impunité, qui va lutter pour la justice et pour les pauvres aussi.
Ces tournées de sensibilisation et de veille citoyenne devront se poursuivre jusqu'à la période post-électorale. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Et le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a pour la première fois envisagé aujourd'hui que des forces du régime syrien puissent être associées à la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. Dans une déclaration à l'AFP, Laurent Fabius a précisé qu'une participation de l'armée syrienne dirigée par le président Bachar al-Assad à la lutte contre l'État islamique ne peut être envisagée que dans le cadre de la transition politique. Le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, a agité aujourd'hui dans la presse le spectre d'un mini-Schengen constitué autour d'une poignée de pays s'il n'y a pas de renforcement de la sécurité des frontières européennes. Le président du groupe rassemblant les ministres des Finances de la zone euro fustige le manque de solidarité entre les pays européens sur la question de l'accueil des réfugiés et se dit pas très optimiste sur la survie de l'espace Schengen tel qu'il existe actuellement et cela l'inquiète énormément. Fin de citation. Un mot de sport pour terminer ce journal. Les dirigeants du football sud-américain ont juré de soutenir en bloc l'actuel secrétaire général de l'UEFA, Gianni Infantino, pour la présidence de la FIFA. C'est ce qu'a annoncé hier le président de la Confédération sud-américaine de football, la CONMEBOL, Juan Angel Naput. Infantino, le dernier à se déclarer parmi les 7 candidats à la présidence de la FIFA, a rencontré le président de la CONMEBOL ainsi que d'autres dirigeants en novembre au siège de la Confédération sud-américaine à Asunción. C'était au Paraguay. Et pour terminer, le pape a dénoncé, vous le savez aujourd'hui, l'injustice atroce que représentent les grands bidonvilles des mégalopoles, fruits de la corruption et de l'accaparement au profit de quelques-uns, a dit le Saint-Père. François s'exprimait à l'église de Saint-Joseph Travailleur, tenue par les jésuites dans l'immense bidonville pollué de Kangemi à Nairobi, où s'entassent plus de 100 000 personnes. Le souverain pontife était au dernier jour de sa visite au Kenya. Prochaine étape, l'Ouganda, deuxième escale de son voyage sur le continent africain. Ce sera tout. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal dans 50 minutes, ce sera avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.